بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, la dernière fois, on avait expliqué quelle sera la position des adorateurs d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment Allah ta'ala demandera à ces personnes d'invoquer le ilah, leur divinité, le jour de la résurrection, et ils verront de leurs propres yeux leur divinité ou ces autres personnes qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui renieront et qui dénigreront le culte qui leur était fait dans ce dunya. On avait vu également ce hadith que j'aimerais que ça reste ancré dans les esprits. C'est des hadiths très forts. Il y a quelques hadiths qu'on a vus depuis le début de ce chapitre. C'est des hadiths en général qu'on essaye de marquer au fluo. Des hadiths tellement importants qu'on doit se souvenir au moment, dans des moments cruciaux. Parfois, quand on a envie de faire un péché, on a vu quel hadith il faut retenir. Quand on a envie de faire du mal à quelqu'un, on a vu quel hadith il faut retenir. Et le hadith qu'on a vu la dernière fois, c'est un hadith vraiment qu'il faut mémoriser. Hadith rapporté par Imam Ahmad. On le rappelle pour nous rafraîchir un peu l'esprit. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de Qiyamah, les gens seront ressuscités, vous savez, sans vêtements, sans chaussures, et les hommes non circoncis. Et également, il y avait un terme bohma, c'est-à-dire les mains vides. On n'aura rien, on n'apportera rien devant le tribunal d'Allah le jour de Qiyamah. Ni notre argent, ni notre honneur, ni le nom de notre famille, ni le nombre de commerces qu'on avait eu, le nombre de bâtiments. Tout ça, c'est resté pour les héritiers. Quand on se présente devant Allah, mes chers frères, c'est uniquement avec nos actions. Et on avait expliqué la dernière fois que beaucoup de gens, malheureusement, ils se croient être dans le droit chemin. Ils croient, ils ont l'impression qu'ils ont tout bon, alors qu'ils ont, je ne dis pas qu'ils ont tout faux, on peut être autant aussi pessimiste, mais ils ont faux dans beaucoup de choses. Dans la Uqsimu bihad al-Balad, ce qu'on avait vu la tanière dernièrement, à la fin, Allah Ta'ala, il explique que c'est simple. Il y a deux voies. Il y a une voie qui est facile et il y a une voie qui est plus difficile. La voie facile, c'est quoi? C'est la voie des passions, la voie de l'instinct, la voie de ce qu'on appelle al-hawa. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je mange ce que j'ai envie de manger. Si j'ai envie d'aller à Saint-Gilles, je vais à Saint-Gilles. Si je veux aller aux hasards, aux boîtes Saint-Pierre, je vais à Saint-Pierre. Je fais ce que j'ai envie de faire selon mon humeur. Je veux venir à Masjid, je viens. Je n'ai pas envie, je ne viens pas. Il y a Barcelone, Bayern, je vais regarder jusqu'à minuit, demain je ne me réveillerai pas, Fadjar, c'est pas grave. Je fais ce que j'ai envie de faire. Ces personnes ont été qualifiées d'adorateurs de leurs instincts. Dans un verset du Coran, Allah Ta'ala dit Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Il y a des gens comme ça qui prennent le hawa, leurs envies, leurs pulsions, leurs instincts comme leur divinité. Pourquoi leur divinité? Parce qu'ils l'obéissent. Comme nous, on obéit à Allah. Ce qu'Allah dit fait, on fait. Ce qu'Allah dit fait pas, il fait pas. Si Allah nous dit lève un pied, reste sur un pied pendant 10 ans, wallahi, on le fait. Si Allah nous dit de ne pas le faire, on ne le fait pas. Ça, c'est ubudiyya, l'obéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens comme ça, ils voient quelque chose, une tentation. Ils voient une jolie fille, ils se disent qu'elle est magnifique, j'aimerais être avec elle. Mais immédiatement, son nafs, son hawa lui dit que va faire un pas vers cette fille. Et il y a son iman qui vient, le peu de iman qui essaie d'intervenir, qui dit que n'oublie pas la crainte d'Allah, n'oublie pas les conséquences, mais c'est vite balayé. C'est l'instinct de Shaitan qui prend le dessus, et immédiatement la personne se met à aller vers cette fille, faire des avances, draguer, etc., jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Se retrouver avec cette personne, la situation qu'elle voulait. Ça, c'est les personnes qui obéissent le hawa, qui vivent comme ils veulent bien vivre. Mais pour eux, la vie, c'est un long fleuve tranquille. Nos soucis, nos stress, be cool, zen, tout ce qu'on veut. Ça, c'est la voie la plus facile. Mais dans la fin de la Uqsimu bihad al-Balad, autant c'est un surat qu'on connaît tous par cœur, pas en apprenant, en écoutant. Allah Ta'ala dit Falaqtahaman aqaba. Il y a différents tafsirs. Mais parmi les tafsirs retenus, Allah Ta'ala fait la reproche que s'ils auraient dû, falabi bimana hala, seulement, si seulement ils avaient choisi le chemin difficile. Et le terme aqaba, c'est un terme, subhanallah, comme tous les termes du Coran, spécifique. Al-Aqaba, c'est un chemin sinueux. C'est un chemin qui est petit, qui est dans une montagne, difficilement d'accès et en côte. Où il faut vraiment être courageux pour choisir pour parvenir au bout de ce chemin. Et ce chemin difficile, vous avez compris, c'est le chemin d'obéissance d'Allah, As-Sirat al-Mustaqim. Et ce chemin a été qualifié de Aqaba parce qu'il est dur. Mes chers frères, il ne faut pas se voiler la face, sauf les femmes, elles peuvent se voiler la face, mais pour nous, non. Il faut bien comprendre qu'obéir à Allah Ta'ala, c'est quelque chose de difficile. Obéir à Allah Ta'ala, ce n'est pas instinctif. La fitra, l'inéité, reconnaît l'unicité d'Allah. Mais la fitra ne veut pas faire tout ce qu'Allah veut, parce que la fitra, elle est « وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا رَحِمَ رَبِّي ». La plupart des gens, ils ont ce nafs qui est « أَمَّارَ بِالسُّوءِ ». Le nafs, l'instinct humain a été qualifié comme étant quelque chose qui le pousse vers l'erreur, qui le pousse vers le péché. S'il nous arrive parfois de faire des péchés par erreur, par inadvertance, il ne faut pas trop se reprocher. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en excuser non plus. Il ne faut pas trop s'en reprocher parce que nous sommes faits ainsi. Si les hommes aiment regarder les femmes, si nous aimons aimer manger tout et de n'importe quoi, etc., il y a une partie de le cœur qui, le terme philosophique c'est apété, qui entraîne l'homme vers ce qui est haram. Et le combat c'est quoi? C'est écraser ce hawa pour l'obéissance d'Allah Ta'ala. C'est pour ça que ce chemin était qualifié de Aqaba, parce qu'il est dur. Dur obéir à Allah, parce que pour obéir à Allah, il faut mettre à plat le nafs. Première étape. Si vous avez mis à plat le nafs, il y a l'autre ennemi, il y a Shaytan. Et parfois, vous vous retrouvez sur un ring avec deux adversaires. Comme les combats de catch, là, vous êtes un contre deux. Il y a Shaytan et il y a le nafs. Alors là, pour que le musulman s'en sorte, il y a deux solutions. Il y a une solution, mais ça marche pour les deux. Pour le hawa, pour le nafs, il faut qu'il soit habitué à le vaincre. N'importe quand on a envie de faire quelque chose, on réfléchit, on passe notre iman avant nos désirs. De cette manière, vous l'aurez assez facilement. Et Shaytan, c'est plus complexe. Parce que Shaytan, si vous l'avez évité sur la route principale, il viendra par des ruelles. Donc Shaytan, il est beaucoup plus malin. Hein, il faut apprendre à vaincre les pièges de Shaytan. Donc, mes chers frères, Allah Ta'ala de ce verset, il décrit que ce chemin est sinueux et difficile. Et Allah, il décrit qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir. Hein? Et puis, il y a différentes actions. Libérer un esclave, bon, ça, c'est plus d'actualité. Voilà, nourrir le pauvre, faire ihsan envers l'orphelin, etc., etc. Ce verset nous prouve que pour être dans le droit chemin, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme on vient de le dire, il y a des gens qui sont persuadés d'être dans le vrai. Pourquoi? Parce qu'ils se voient toujours promis ça, sans faire de critique. Moi-même, je ne suis pas promis ça. Ils se voient toujours réguliers dans la salah. Et de cette manière, ils sont persuadés qu'ils sont les meilleurs. Que ce sont eux les bouzloubs de Saint-Denis, ce sont eux les muttaqis. Alors que dans le travail, dans les relations avec madame, dans les relations avec les enfants, dans notre akhlaq, dans différents autres domaines de la vie, ces personnes n'ont pas assuré. Ils n'ont pas fait ce qu'Allah Ta'ala a demandé d'eux. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, et quelqu'un m'a fait le rappel dehors. Jazakallah khair, c'est quelque chose d'extrêmement important en relation que nous aurions dû dire la dernière fois. Le grand danger, le grand piège de Shaitan, c'est ça. Hein, il vous fait croire que vous êtes au top. Et il n'y a rien de plus dangereux quand vous croyez être au top. Quand vous ne vous remettez plus en question, ça veut dire que là, Shaitan vous a eu. Il aimerait vous faire rester dans ce marasme, dans un niveau où vous ne progressez pas. Et sachez, mes chers frères, quand on ne progresse pas, on régresse. Ça, c'est une qaïda à retenir. Quand on ne progresse pas dans la religion, c'est qu'on est en train de régresser. Ça, c'est sûr. Voyez, hein? Et j'en ai discuté avec un talim de Montra. Il m'a dit qu'il y avait une... Bon, Bagat me dit ça encore il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il y a une citation qui l'a marqué chez une personnalité qui était venue à la Réunion il y a quelques temps. Il a dit que je n'ai jamais compris, c'est vraiment quelque chose de profond, je n'ai même pas fait attention à ce qu'il avait dit. Il a dit, je n'ai jamais compris pourquoi un musulman peut-il, comment un musulman peut-il s'arrêter d'apprendre le Coran. Mais ça c'est extrêmement profond comme parole. Comment cela se fait-il qu'un musulman, un jour, il s'arrête d'apprendre le Coran? L'erreur vient d'où? Vient de notre conception, la relation qu'on doit avoir avec le Coran. Comme vous l'avez déjà expliqué, on a l'impression que la relation du mu'min avec le Coran, c'est quoi? C'est qu'on envoie les enfants à madrasa à partir de 5 ans, ils vont apprendre la shaf al-qawa'id, ils vont lire amman 10 surat, ils vont lire le hafté, et puis le Coran, ils vont faire le Coran. S'il est un peu plus intelligent que les autres, on va le faire hafez. Et s'il est bon hafez, ben le top c'est quoi, hein, la consécration pour lui c'est quoi, c'est de remporter par exemple un concours Qiraat. Et l'autre fierté pour le papa, il sera fier, si mon enfant il fait Tarawih, ben grand masjid, c'est l'homme le plus heureux au monde. Et puis c'est fini. Après parfois il rétrograde aux deuxième division, hein. Une année il est masjid. Après, je ne sais pas quoi la faire, il y a cette pointe, il est rétrogradé à notre masjid. C'est la fin de l'âge, les masjids se battent. Mais notre conception du Coran se limite à ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un, même l'idéal, le meilleur, quoi, c'est quelqu'un qui est hafez, qui connaît son Coran. Alors, très souvent, on voit une personne qui, lorsqu'elle a terminé son Coran, elle fait son dos tout le temps, elle est en train de réviser. Mais est-ce qu'elle est en train de progresser là? Elle ne progresse plus là. Elle connaît 30 types. Cette personne connaît 30 juz, 30 sipara par cœur. Peut-être mieux que beaucoup de personnes. Connaître, mashallah, pas que ça. Mais le problème, c'est que cette personne, elle a arrêté sa relation avec le Coran à partir du moment où elle a fini avec son stade à Masjid, où un nas est mouflihoun, et elle est le boudoua, et puis tout, c'est fini. Un musulman doit avoir une relation d'apprentissage avec le Coran jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quand vous connaissez le Coran par cœur, ben, apprenez son sens. Qu'est-ce que Allah il me dit dans ces 23 années de révélation? Qu'est-ce que Allah Ta'ala me dit dans ces 23 années de révélation? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire falastahamal aqaba? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire wama adraka ma laylatul qadr? Ça c'était facile. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire thumma latus'aluna yawma idin 'anil na'im? Il faut qu'on ait soif, il faut qu'on ait envie d'apprendre le Coran. On ne doit pas se dire que je me fixe un objectif être hafiz et c'est là wallah. Continuer à avoir une relation permanente avec le Coran. Donc, ça c'est un des pièges de Shaitan, l'autosuffisance. Et l'autre piège, c'est quoi? C'est ce que Cheikh nous a fait penser la dernière fois, qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent que moi, dedans, les propres. C'est pas grave ça. Il fait peut-être quelques péchés, mais dedans, les propres. C'est-à-dire que la personne pourrait faire zina, elle pourrait boire de l'alcool, elle pourrait faire les pires des péchés, mais elle se croit en sécurité. Parce qu'elle s'autoproclame être propre du cœur. Mais ça, même le plus grand des fasiqs, c'est qu'il peut dire que dedans, les propres. Et ça, c'est un grand classico également de Shaitan. Il nous fait dire que moi, dans mon cœur, il n'y a pas de haine pour personne. Donc, quand je vais rencontrer Allah Ta'ala, ben, il n'y a aucun problème pour moi non plus. Ça, il faut faire attention, mes frères. Il faut toujours se remettre en question. Qu'on soit musalli régulier ou musalli périodique, qu'on soit hafiz du Coran, qu'on soit érudit, quel que soit le degré de iman. Le degré qu'on peut avoir dans la religion, il faut toujours se remettre en question et combler les brèches. Parce que Shaitan, il fera des brèches dans vos acquis et essayons d'avancer, mes chers frères, qu'Allah nous accepte. Faïd. Et donc ce hadith très important qu'on a vu la dernière fois, que Allah Ta'ala, il dira le jour de Qiyamah, « Anna al-maliku, anna al-dayyan, la yambari li ahadi min ahli al-nar, an yadkhul al-nar, wa lahu inda ahadi min ahli al-jannata haq, hatta aqdihi minhu. » Un hadith un peu long qu'on va dit en français qu'Allah Ta'ala il va jurer le jour de Qiyamah que je suis le Malik Ad-Dayyan, le roi, celui qui contrôle tout, que jamais quelqu'un de l'enfer ne pourra entrer dans l'enfer alors qu'il a un droit sur quelqu'un du paradis. Tant que je ne prendrai pas ce droit de cette personne du paradis, et vice versa, une personne destinée au paradis n'entrera pas au paradis alors que Wali Ahadi min Ahli Nar inda al-Haq, alors que quelqu'un destiné à l'enfer a un droit sur lui. Vous croyez qu'avec nos amas, nous rendons le paradis avec le pied droit, avec les deux pieds, ou la tête en avant, alors qu'on avait fait du tort à certaines personnes de ce dunya, on devait de l'argent, on avait opprimé quelqu'un, on avait fait ribat chez quelqu'un. Là, wallah, Allah Ta'ala, il prendra le haq de chaque personne, le jour de Qiyamah. C'est un hadith qu'on doit graver ça dans nos esprits pour qu'on comprenne bien. Et il y avait un hadith aussi qu'on avait oublié de citer la dernière fois. Le prophète, alayhi salat wa salam, hein, il était dans une assemblée, et Abu Dhar al-Ghaffari, radiallahu anhu, dit au prophète d'Allah, radiallahu anhu, annahu qal, ra'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a vu, hein, deux cabris en train de se battre, en train de s'encorner, donner des coups de corne. Et le prophète a demandé, oh Abu Dhar, est-ce que tu sais pourquoi ils s'encornent? Est-ce que tu sais pourquoi ils sont en train de se battre? Abu Dhar dit, oh, non, prophète d'Allah, je ne sais pas. Faqala alayhi salatu wassalam, lakin Allah yadri, wa sayahkumu baynahuma. Le prophète dit que tu ne sais pas, mais Allah il sait lui. Et Allah il jugera ces deux animaux le jour de Qiyamah. Allah Ta'ala il fera la justice entre ces deux animaux le jour de Qiyama. Ça, c'était un exemple que le prophète a voulu donner à Abu Dhar al-Ghaffar. Il dit, regarde ces deux animaux. Tu ne sais pas c'est quoi le problème. Il dit, c'est des animaux, qu'est-ce qu'ils font? Tu ne sais pas. Mais Allah, il sait. Et Allah, il fera justice. Si Allah est capable de faire justice en deux cabris, alors qu'il y a 12 milliards de cabris sur la terre, en deux êtres humains, est-ce que Allah Ta'ala laissera passer les oppressions? Ça, c'est une mise en garde contre les gens qui font volement vers le prochain. Et c'est un réconfort pour les opprimés. C'est un réconfort. On vous fait du temps, il y a des gens qui sont injustes avec vous, on vous a pris votre argent, on vous a accusé de telles choses, on vous a fait tohma, riba, namima, qila wa qal. Casse pas la tête, mon frère. Si vous n'avez pas eu la justice de ce dunya, d'ailleurs, il ne faut pas chercher justice de ce dunya. Parce que le prophète, kana la yantaqimu li nafsi, notre prophète, alayhi wassalam, il ne se vengeait jamais pour quelque chose qui le concernait. Si quelqu'un a fait du tort, il ne réglait pas le problème de lui-même. Il laissait Allah Ta'ala, hein, il règle ce problème. Donc, si on n'a pas eu justice à ce dunya, qu'on sache que, de toute façon, il y a un Rab là-haut, il y a un Mahkama là-haut, il y a un tribunal là-haut, et il y a le plus, il y a Ahkam al-Hakimin. Il y a le plus juste, le juge des juges. Celui qui n'accepte pas de Poudvan, A'udhu Billah, celui qui ne passe pas, celui qui, A'udhu Billah, qui ne connaît personne dans ce tribunal. Celui qui connaît qu'une chose, la justice, et qui déteste al-zulm. Taïb, Wallahi kalan al-tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Taïb. Donc, là on passe à un chapitre totalement différent. On passe à un chapitre totalement différent. Là on va voir, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé hein, il y a peut-être un an, mais on va essayer de revoir un petit peu ces étapes pour déboucher sur quelque chose de précis. Hein. On avait déjà vu un peu l'année dernière quelles sont les questions auquel personne ne pourra échapper le jour de Qiyam. Et il y a quelque chose qui s'appelle As-Su'al et il y a quelque chose qui s'appelle Al-Hisab. Ce sont là deux choses différentes. Hisab, c'est quoi? C'est rendre compte des péchés accomplis ou des bonnes actions qu'on n'a pas faites, des obligations qu'on n'a pas faites, des devoirs dont on ne s'est pas acquitté. Ça, c'est Hisab. Hisab, c'est synonyme de compte, rendre compte. Su'al, c'est les questions. Qu'Allah Ta'ala fera reconnaître à telle personne qui lui a donné telle chose, telle chose, telle chose. Et là, chaque personne qui a eu un de ses bienfaits aura à répondre. Plus on aura eu de bienfaits de la part d'Allah, plus on aura à répondre le jour de Qiyama. Alors, on a choisi de commencer par ce ni'mat parce que ça concerne hein, trois quarts du public. Ils sont plus âgés, il y a plus de personnes, il y a plus de parents que de jeunes. Donc, pour les jeunes, il y a un discours parfois un peu adapté. Et pour les parents, un autre discours. Maintenant, si les jeunes veulent partir, ça ne me dérange pas, parce que je ne veux pas qu'arrive à la maison, ils passent un savon, leur parle. J'ai entendu que ça l'a dit, ouais, elle a dit, il faut occuper où, bien de moi et tout, occupe pas. Vous voyez? Non, je plaisante, vous voyez? Et donc, une des questions, je ne dis pas la première chose, mais une des questions qu'Allah Ta'ala posera aux gens le jour de Qiyama, c'est qu'Allah Ta'ala, en arabe, as-su'al anil ahli. Hein, les questions à propos de la famille, les questions à propos de la responsabilité du père et de la responsabilité de la mère. Vous savez, ce hadith, tout le monde le connaît, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah sa'ilu kulli ra'in amma star'ahu hafidha amdaya hatta yas'alu rajula an ahli baytihi » Ce hadith d'Ibn Hibban. Allah Ta'ala demandera à chaque personne à qui il a donné une responsabilité, est-ce qu'il a tenu ses promesses, est-ce qu'il a été honnête dans ses responsabilités ou il ne l'a pas fait. Et Allah Ta'ala demandera même à l'homme des questions à propos de sa famille. Et quand on parle de Ahl al-Bayt, quand on parle de Ahl, c'est madame et enfants. Quand on parle de Ahl, c'est la famille, c'est-à-dire votre épouse et vos enfants. Et on connaît ce hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Vous êtes tous des, pourrait dire, des bergers, et chaque berger sera questionné à propos de son troupeau. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'oulun an ra'iyatih. Et l'homme, c'est-à-dire le mari, le père, est le berger dans sa famille. Et il sera questionné à propos de son troupeau. Alors, est-ce que de nos jours, le père, c'est toujours le berger dans la famille? Où il y a plutôt une bergère, et nous on est avec les moutons, sauf qu'on est plus gros que les petits moutons, hein, na'ouzou billah. Et donc ça c'est une question qui viendra à chaque personne à qui Allah Ta'ala a donné une épouse et des enfants. Concernant l'épouse, on avait déjà expliqué l'année dernière, donc on ne va pas revenir là-dessus. Taïb, concernant la famille, c'est ce qui nous intéresse, la famille. Il y a deux catégories, il y a deux cas de figure, c'est pas compliqué, il y a deux cas de figure. Il y a le père qui se sent responsable, qui est tout d'abord, pardon, reconnaissant du bienfait qu'Allah lui a accordé en lui donnant une épouse et des enfants. Et donc, il est reconnaissant vers Allah. Et alors, comment être reconnaissant vers Allah? En faisant les louanges d'Allah, alhamdulillah, en faisant doigt, en remerciant Allah. Ça c'est ash-shukru bil-lisan, remercier Allah par la langue. Et puis il y a ash-shukru bil-jawarih, remercier Allah Ta'ala par les gestes, c'est-à-dire par les actions. Et ce père de famille responsable, il sait qu'il a une femme et ses enfants, et des enfants sous sa responsabilité, et donc il va faire tout ce qu'il peut pour donner une éducation islamique et stricte, mais stricte sans guillemets. On verra quel est le sens de strict. Une éducation islamique, stricte et adaptée à ses enfants, et quand on dit strict, c'est rigueur avec amour. Quand on dit strict, ce n'est pas être un père fouettard, ou être un père méchant, ou être un père traumatisant, c'est être un père qui sait fixer les limites. Et qui, en-delà, tout ce qui est à l'intérieur des limites, c'est un père dont l'enfant, c'est un père qui a un attachement très fort avec l'enfant, et c'est réciproque. Et l'enfant a un amour profond pour son père. Mais lorsqu'on arrive aux limites de la désobéissance aux ordres d'Allah, ou de la désobéissance de ce que les parents attendent de cet enfant, là, le père sait se montrer intransigeant, pardon. Là, le père sait se montrer intransigeant. Ça, c'est une catégorie de parents. L'autre catégorie de parents, c'est ceux, hein, on pourrait dire ça comme ça, les parents démissionnaires. Hein, ils ont démissionné de leur rôle de père. Ils pensent que leur rôle de père, c'était de la conception de l'enfant, mais ça c'était pas difficile, bien au contraire, et ben, acheter à manger, et faire les courses, et ramener à manger dans la maison pour les enfants. Et ce sont des parents démissionnaires parce que, on avait déjà dit ça plusieurs fois, ils vont acheter l'affection de ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'amour à donner à cet enfant, mais il a des objets à donner. Qu'on avait déjà dit, il donnera la PlayStation, il donnera les jeux vidéo, et il donnera la moto à l'âge que l'enfant voudra, le vélo, ensuite la moto, ensuite il inscrira son fils pour passer son permis de conduite accompagné à 16 ans, il aura la voiture à 18 ans, il aura telle chose, etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'échange d'amour, il n'y a pas eu de confidence entre ce père et ce fils, il n'y a pas eu la relation de confiance, il y a eu un échange d'objets. Et de cette manière, ce père démissionnaire, il remplace l'affection par le matériel. Taïb, dans ça, comme on avait déjà expliqué, on ne va pas revenir dessus. Et puis, il y a une autre catégorie de papa, de père, excessivement dur, qui outrepasse son rôle de père. J'avais un élève comme ça, je vais offenser personne, il me disait que, voilà, peut-être qu'on ne va pas dire cet exemple, parce que c'est sûr que ça peut être mal pris. Taïb. Donc, Allah Musta'an. Quand on parle de père qui a un caractère juste milieu, c'est on peut apprendre à notre enfant la religion. On peut dire à notre enfant de l'obliger à venir à masjid, il faut sortir jamaat, il faut faire tout ça. Je suis entièrement d'accord. Mais si en contrepartie, c'est pour ça que je garde l'exemple, on va abandonner l'exemple, si en contrepartie, on ne récompense pas cet enfant. Par exemple, on dit, mois de janvier, février, là, vous faites-moi plaisir, allez jamais 40 jours. On va voir que ça va pour toi. Excellent. Ça, c'est un père exemplaire. Mais attends, quand il arrive juillet, fais quelque chose pour lui quand même. Quand il arrive juillet, bah, il se récompense. Envoyez-le en vacances avec ses amis, ou alors, s'il a envie d'aller mourir, c'est avec la famille, ou autre chose. Il faut qu'il y ait la récompense quand même. On ne peut pas que fixer la barre haute. Et on ne peut pas que demander des choses à l'enfant, à l'adolescent, quel que soit son âge. Il faut qu'on donne également. C'est-à-dire une éducation stricte. Hein, comme une fois, quoi, c'était à l'époque de Hazrat Omar, où c'était un hadith. Un enfant, j'ai oublié. Personne dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que, je ne sais plus si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Hazrat Omar, parce qu'il y avait le cas aussi où Omar avait envoyé, il avait désigné quelqu'un à la tête d'un village, et ce chef bédouin, il a vu Omar ibn al-Khattab embrasser ses enfants. Et là, il avait dit, oh, Amir al-Mu'minin, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'embrasse mes enfants. Il dit que moi, j'ai, je ne sais pas combien d'enfants, je ne les ai jamais embrassés. Et là, Omar était en colère avec cette personne. Il dit que ben, si quelqu'un n'a pas de pitié pour ses enfants, comment pourra-t-il avoir pitié pour la Ummah? Faïm? Et donc, c'était un cas où une personne, il avait vu soit le prophète, soit Omar ibn Khattab entrer à la maison, il a vu la réaction des enfants, comment ils étaient contents et joyeux à la venue de ce père de famille. Et là, il avait dit que lorsque moi je rentre chez moi, il y avait une expression en arabe, sakata kullu natiq wa, quelque chose comme ça, dit tout ce qui parle, il arrête de parler. Et tout ce qui bouge, il arrête de bouger. C'est un père qui fait peur. Hein, c'est un peu comme nos parents, ils racontent, hein, sans vouloir critiquer les anciens, j'allais dire les ancêtres, c'est péjoratif, sans vouloir critiquer les anciens, parfois nos parents ils disent, ouais, quand Dada va dire, tu rentres dans la case, personne ne bouge plus. C'est bien, je ne vous dis pas que ce n'est pas bon, mais peut-être qu'à cette époque, en 1930, c'était bon. Parce qu'en 1930, il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand j'étais sorti dehors, bon, ben, il était jeu ballon, hein. Au-delà de jeu ballon, il n'y avait plus grand-chose à faire. Il paraît que Plaza était bien installé, mais pas tout le monde avait accès. Donc, ben, il n'y a pas l'ambiance. Il n'y avait pas Zaza, il n'y avait pas un moulin rouge, il n'y avait pas tout ça. Donc, maman, il reste un même, vous savez, ça va. Mais de nos jours, si on a un comportement type 1930, lorsqu'on rentre à la maison, ou alors on a le badine, ou alors on a le bâton, si quelqu'un fait quelque chose, il tape, arrêtez, vous dormirez en prison ce soir. Maman, il a un numéro VA, oui, les élèves de la classe disent, papa, il touche à moi, il dit, ah là là, on a un numéro, comment ça, enfance maltraitée ou maltraitante, je ne sais pas quoi, numéro VA, il a de son calepin, de son GSM, qu'on fait? Il y a un parent qui a été condamné pour avoir donné une pièce de baffe à son fils, cette fois, ce genre de choses. Allah musta'an. Donc, être un père exemplaire avec ses enfants, c'est un père qui saura apporter l'éducation islamique, qui saura amener la rigueur, mais cette rigueur, elle viendra à la fin. C'est 10% de rigueur et 90% c'est de l'amour et la muhabba, la mawadda avec ses enfants. Et cet exemple, pour la troisième fois qu'on sait à Hazrat Ali, il dit que jusqu'à l'âge de 6 ans, hein, donnez de l'amour. Ne frappez pas vos enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'y a que de l'amour. De 6 à 12 ans, vous l'éduquez. Parce que vous l'avez tellement aimé qu'il y a une relation de confiance. Votre enfant, il est dans votre poche, on pourrait dire. Il est avec vous. Il est voué à votre cause. Tout ce que vous allez lui dire, il va le faire parce que vous l'avez aimé. Vous lui avez donné du temps de 0 à 6 ans. Même si on travaille jusqu'à tard, mais quand on rentre, on est là avec les enfants. Vous voyez ? Et de 12, et à partir de 12 ans, c'est fini. De 12 à, si c'est de 8, 12 à 18 ans, Zakat Ali l'a dit que c'est fini. 12 à 18 ans, c'est votre ami. L'enfant, le fils, le garçon, c'est le compagnon du père. Il l'aide. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, à 12-13 ans, les enfants travaillaient déjà avec leurs parents. Bien que c'est un compagnon. On n'éduque plus un enfant à 14 ans, 15 ans. C'est fini. À 14 ans, 15 ans, il essaie d'avoir sa vision des choses. Hein, il va acquérir sa personnalité. Vous n'allez pas redresser là-bas à 14-15 ans. C'est comme si qu'un mari, c'est comme si qu'un homme, il a 40 ans de mariage. Exemple. Pendant 40 ans, si sa femme fait tout ce qu'elle voulait. Vous voulez un bijou? Vas-y, achète. Tu veux une paire de chaussures? Voilà tes chaussures. Ah, quelle collection printemps, été, automne, hiver sortie? Ben voilà printemps, été, automne, hiver. Vous voulez aller faire course? Ben voilà chéquier, voilà carte bleue. Mais attends, de l'auto, achetez ce qu'on veut. Il y a des maris qui sont comme ça. Ils sont en train de construire, de détruire leur couple. En train de détruire leur couple. C'est à 40 ans maintenant, en 2009, il y a la crise. Ouais, ils se rendent compte qu'il a été trop laxiste. Maintenant, il veut redresser là-bas. Vous allez redresser là-bas, vous allez casser le gouvernail. Vous allez tout casser. Si après 40 ans de mariage, vous dites, madame, moi, 6 ans, besoin de quoi, c'est quoi? Déjà, elle n'a jamais utilisé ce ton 40 ans. Toujours été ma chérie, avec des petits mots doux. Même si elle a fait des bêtises, ben non, c'est pas grave, je passe dessus, etc. C'est-à-dire qu'on fait partie du troupeau maintenant. Il y a, il y a une bergère avec le bâton, et nous, on fait partie des moutons, mais comme on l'a dit, on est un mouton un peu plus, avec un ventre, à la différence des autres qui nous ont pas eu. Et donc là, si après 40 ans, je dis, assise, mais c'est quoi? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, les finances, le budget, c'est moi qui contrôle. Hein? Il n'y a plus à acheter tout ce que tu veux, il n'y a plus à sortir avec tes amis, il n'y a plus à déserter la maison. À partir de maintenant, mais arrête d'acheter manger dehors, il faut cuisiner, il faut que tu t'occupes des enfants, c'est plus la bonne, c'est plus le chauffeur, c'est plus telle chose. Vous croyez qu'elle va dire, ah oui, Allah, pardon, maf, je retrouve mon rôle d'épouse exemplaire maintenant. Jamais de la vie, elle s'en va. Elle s'en va avec votre carnet de chèque et votre carte, parce qu'elle a le code et tout. Elle s'en va avec tout ça. Jamais on ne redresse plus là-bas. Faïd, pareil, si vous avez laissé l'enfant courir à galoper dans les prés jusqu'à 14-15 ans, à 15 ans, on se rend compte que ben, maintenant, mon mari, il est seconde. Maintenant, j'ai des rapports, j'entends qu'il fait telle chose, il boit pas que de l'eau zamzam, et il achète certaines choses avec son argent de poche, etc., etc. Que quand il sourit tout le temps, c'est pas qu'il est content, c'est qu'il a peut-être certaines émotions. Là, on se rend compte qu'il y a un gros problème. Là, on va dire, arrête avec ça, allons soit diamant 40 jours. Mais, Franck, fréquente plus de camarades, allons à la masjid. Maintenant, mais, ramasse tout Benzafé, etc. L'ordinateur confisqué, MSN, Facebook, tout bloqué. Jamais de la vie, maman, il fugue. Sans maman, il fugue, il tape à vous. Comme ça. Donc, une éducation, ça, comme Ali dit, ça commence à l'âge de. À quel âge? À la naissance. En donnant de l'amour, c'est déjà la moitié de l'éducation. Parce que vous allez avoir le cœur de cet enfant. Si vous n'avez rien fait pour lui, vous avez demandé de faire quelque chose pour vous, on va y balader, et c'est logique, et moi j'encourage ces enfants à le faire. Enfin, j'encourage pas, mais je comprends. Si un père n'a jamais été présent, comment tout d'un coup il peut exiger de son enfant telle chose lorsque rien ne va plus? Si ça ne va plus, c'est que vous avez laissé, il y a eu trop de laxisme, il y a eu un père démissionnaire. Faïb? Et on va finir avec ça. Il ne faut pas trop regarder l'heure. Il est 30 minutes, Faïb. Et ce père intelligent, il enseigne à ses enfants donc l'éducation islamique. Et quand on parle d'éducation islamique, malheureusement, nous on a compris que l'éducation islamique, c'est uniquement enseigner à nos enfants fait namaz, fait rosa. C'est tout. Zakat, non, il n'a pas moyen. Hajj, je ne sais pas maintenant. Rosa et zakat. Rosa et son namaz. Il y a le Coran. C'est-à-dire al-ahkam. On s'est focalisé sur ce qu'on appelle al-ahkam. Les liens ta'aboudi, le culte. Tout ce qu'il y a comme bonne action. Mais ce n'est pas ça l'éducation, ça ne se résume pas à ça. Apprenons à nos enfants également le akhlaq, le comportement du musulman de la société, avec la famille, avec les proches, avec les voisins, et d'une manière générale, être quelqu'un d'exemplaire de la société. Apprendre à nos enfants le dégoût des péchés. Apprendre à nos enfants, inculquer à nos enfants, ça c'est le plus important, et c'est là-dessus qu'on va conclure, enseigner à nos enfants la crainte d'Allah. Ça, si on ne l'a pas fait, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Même si vos enfants, ils viendront namaz 5 fois par jour, si vous n'avez pas enseigné à ces enfants qu'il y a un Rabb qui te regarde du matin jusqu'au soir, il y a des anges qui inscrivent tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas accomplir, si l'enfant, dès son plus jeune âge, on ne l'a pas inculqué la présence d'Allah, muraqabatullah, l'amour mêlé à la crainte d'Allah, lorsque cet enfant aura 18 ans, là, lorsqu'il aura eu son bac. Jusqu'à maintenant, pourquoi il ne faisait pas de bêtises? Parce que vous étiez là. Il avait peur de son père. Parce qu'il y avait masjid qui était. Il habitait là, il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y avait Moulissab, il y avait plein de Moulissab partout. Et que tu pointes son édouard à Parawala, partout. Vous avez partout, il y a des musulmans. Il y a plein de cafés musulmans, il y a plein de familles musulmans. Vous avez c'est là, stop, tombez coup de voisin. Il fallait le coup faire une heure, demie, ou un an. Partout, à Parawala, vous ne pouvez pas faire rien. Faïb? Maintenant, à 18 ans, le maman est tranquille. Les hafez peut-être aussi, hein? Alhamdulillah. À 18 ans, vous lui faites entièrement. Vous croyez que vous pouvez lui faire confiance, qu'il a des bases solides. Il dit, papa, me fais tel métier, je veux faire telle formation, je dois aller à Bordeaux. Voilà, je dois aller à Marseille ou à Paris ou quel que soit l'endroit. Taïb. Il dit, ben oui, bénédiction de ton père et ta mère, vas-y. En croyant que cet enfant, il est dans le droit chemin. Na'oudou billah. Si vous savez, il y a une assistante sociale qui m'a raconté des choses. La ilaha illallah. Et même des jeunes de 22, 25 ans, qui ont connu certaines situations et qui sont retournés, alhamdoulilah, vers le droit chemin, lorsqu'ils vous décrivent le réunionnais, le musulman réunionnais qui arrive en France, il est déchaîné, il a le diable dans le corps, garçon comme fille. Une personne qui me disait que voilà, hein, elle faisait son stage, je ne sais pas quoi, en France, adulte, hein. Dit là, quelqu'un de la famille dit que voilà, ben, il y avait telle famille, grande famille, qui avait dit à cette personne, ben voilà, mon fils, il vient en France, telle, je ne sais même pas quelle ville, hein, ça ne m'intéresse pas, telle ville, elle va faire ses études, j'ai fait un petit coup d'œil sur elle, de temps en temps. La France, c'est pas comme la Réunion, je pense que les quartiers sont éloignés et tout, donc c'est pas simple. Personne ne dit qu'une fois, bon, il passe par sa tête, bon, ça voit un petit coup, fila, voilà, qu'est-ce que tout va bien, c'est un samedi. Il a dit, je vois cette fille arriver, je sais pas, t'es 11h, minuit, t'es pas encore arrivée. Quand elle arrive, elle est dans une tenue. Elle dit, elle était habillée comme une prostituée. Là, j'ai dit à cette fille de bonne famille, qu'est-ce que tu fais de cette tenue? Et elle était choquée de me voir. Personne me dit que la fille était choquée de me voir. Et là, j'ai fait des remontrances, etc. Et puis personne me dit, mais vous, des parents, comment ils peuvent envoyer leur fille à 10 000 km? Elle va être dans un internat, elle va être dans... S'il y a un mahram, si son papa, il vient avec elle, ou si elle a un frère là-bas, c'est autre chose. Mais tout seul comme ça. Et vous pensez que c'est des malaïka qui ne savent que la ya'asuna Allah ma amarahum, qui font qu'obéir à Allah Ta'ala. Alors le cas des filles, ça je n'aborderai pas pour ne pas tomber, sombrer dans les trucs. Hein, on ne peut pas dire qu'il y a un discours trop dur. Mais même les garçons, si vous n'avez pas appris à votre garçon la crainte d'Allah, c'est exactement comme ce jeune qui m'a dit, Moïsa, m'a dit qu'il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai commencé mes études en France. Il y avait un ami à moi, hein, il dit que bon, on connaît qu'en France, c'est pas facile de trouver le manger halal. Et la tentation est grande. Il y a McDo, il y a tout ce qu'il y a dans, quand vous trouvez Makkah, Madina, Jeddah, ben, il y a la même chose là-bas, mais en haram. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu ce musulman de femme, d'éducation correcte, lorsqu'il a fait le premier pas, il s'est décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je mange haram, c'est plus grave. Je ne considère plus ça comme un péché. Le jour où il a fait le premier pas, il s'est dit que maintenant, j'en peux plus, je mange McDo. Ça, c'était une chute. Ça, c'était une chute. Parce que cette éducation de 20 ans, qu'un musulman, il mange que halal, il mange que ce qu'un musulman, il vend ou coupé par un musulman, là, en quelques mois, l'éducation était, facilement l'expression, foutue en l'air. Parce que cet enfant n'a jamais eu dans son cœur, c'est quoi la crainte d'Allah, qu'Allah me voit, muraqabatullah. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on doit inculquer à nos enfants. Et ça, ce n'est pas que le travail du Moulissab. Parce que Moulissab va voir votre enfant 2 heures, 3 heures par semaine. C'est un travail de la vie de tous les jours que vous devez faire avec vos enfants dès le plus jeune âge. Et pour qu'aucun parent, et c'est la dernière phrase, pour qu'aucun parent, le jour de Qiyamah, n'osera dire à Allah Ta'ala que moi, je ne suis responsable que de mes actes. Mes enfants, c'est chacun nafsi nafsi. Non, c'est pas comme ça, nafsi nafsi, c'est pas dans ce sens-là. Quand vous êtes, si vous êtes responsable d'un groupe de personnes, le jour de Qiyama, si vous ne vous êtes pas acquitté de votre devoir, de votre tâche, ben vous aurez à répondre de leurs actions à eux également, le jour de Qiyama. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala met en garde le Coran, et on terminera avec ce verset, afin qu'aucun parent, le jour de Qiyama, ne puisse penser même s'excuser en disant que ça, ce sont mes enfants, c'est leur vie à eux. Allah dit au Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum » wa ahlikum nara. Allah Ta'ala, il s'adresse aux ahli l'iman. Allah Ta'ala ne s'adresse pas aux kuffars. Allah s'adresse aux musulmans. Protégez-vous et protégez vos familles du feu. Et Allah décrit ce feu, on l'avait déjà expliqué il y a 3 ou 4 mardis. Allah il explique que ce feu, hein, qu'est-ce qui alimente ce feu? Les gens annas. Le combustible, c'est les êtres humains ainsi que les pierres. Allah dit que alayha malaikatun ghilabun shidad, qu'il y a de ce feu, auprès de ce feu, des anges très durs, très sévères. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Quand Allah les ordonne de faire quelque chose, ils le font. Ils font tout ce qu'Allah demande. C'est-à-dire que des anges qui n'écoutent pas les personnes de le Jahannam. Même si quelqu'un il se plaint ou il s'excuse ou autre chose, ces anges ne sont pas là pour les écouter. Ils obéissent à Allah et dans leur cœur, il n'y a pas un pourcentage de raham, de rahma pour les gens qui sont en train de subir le châtiment du Jahannam. Donc Allah il met en garde contre la chose la plus difficile et en décrivant cette chose par la puissance du Jahannam, c'est quoi le combustible et qui c'est qui dirige le Jahannam, les pieds des anges, les anges les plus sévères qui n'ont aucune rahma dans leur cœur pour les personnes qui sont persécutées dans le Jahannam. Et pour cela Allah il met en garde, protégez-vous et protégez vos familles contre ce feu. Qu'Allah t'en donne tawfiq de comprendre les quelques paroles qu'on a pu dire, qu'Allah nous a donné tawfiq, pardon, de dire, et qu'Allah remplisse nos cœurs, nous en tant que parents, et peut-être les jeunes en tant que futurs parents, s'il y a eu des manquements dans l'éducation, si vous voyez que vos parents ne vous ont pas donné ce qu'ils auraient dû vous donner, ben à vous de prendre les bonnes résolutions que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, vous serez à votre tour père, ou alors pour les filles, pour les qu'ils entendent par Internet, pour quand ils seront un jour mère, qu'elles prennent leur rôle à cœur, qu'on comprenne que ça, ce n'est pas juste quelque chose, c'est pas la nature ça, qu'on ait des enfants et tout, c'est un roulement, c'est vrai que c'est un roulement dans la nature humaine, l'évolution, etc., le renouvellement des générations, mais c'est également un bienfait, et Allah Ta'ala nous posera des questions à propos de ce bienfait, qu'Allah Ta'ala nous tawfiq, à nous tous, à moi-même et à nous tous, de comprendre ces quelques paroles, de faire amal, de mettre en pratique, et de faire passer le message à nos mères et à nos sœurs. Et on rappelle, et on ne rappellera jamais assez, que au mois de mai, hein, à la fin de la première semaine de mai, vous savez tous qu'il y aura le jour, hein, il y aura ce jitima, inshallah. Et c'est un événement extrêmement important. Lorsqu'on voit, mes chers frères, vous savez qu'il y a certains cas de musulmans qui quittent l'islam de nos jours. Je discutais avec un alim l'autre fois, souvent se focalisent sur la drogue, sur l'alcool, sur les sorties en boîte, sur le zina. C'est vrai, ce sont là des gros problèmes. Mais on a parfois d'autres problèmes. On a parfois des personnes qui quittent l'islam. Et on connaît des cas, parfois c'est des familles qui ont été à la madrasa comme nous tous. Qui ont été à la madrasa comme nous tous, Allahu Musta'an. Et qui vont, je ne dis pas vers quel mouvement ils vont, mais je connais des cas précis de personnes qui quittent l'islam, qui font ce qu'on appelle ridda apostasie, qui vont dans d'autres tendances. Et ça, c'est la pire des choses. Il faut qu'on fasse extrêmement attention à cela. Allahu Musta'an, je n'en dirai pas plus, Faïb. Vraiment, mes chers frères, quand on demande Ihdina Sirat al-Mustaqim, oh Allah, guide-nous vers le droit chemin, personne ne sait. Hein, vous savez, vous avez vu sur France 2 ce reportage en Algérie. Hein, des milliers de personnes tous les vendredis, pas que n'importe quel jour, des milliers de personnes tous les vendredis qui quittent l'islam pour aller vers d'autres tendances. Allah Musta'an, Jazair, pays musulman. C'est des dames âgées, elles ont le châle, ils font encore le you, toute la tradition, et ils sont en train d'entrer dans d'autres rites. C'est-à-dire des femmes, peut-être qu'elles ont fait namaz toute leur vie, elles ont fait ramadan toute leur vie, elles ont été Makka Madina, elles ont dû faire le hajj, elles ont fait Dua Arafat comme nous tous. Mais à la fin de leur vie, elles quittent din, elles vont vers Kouf. Ils quittent An-Nour et ils vont vers Zulman. Mes chers frères, qu'Allah nous protège. Personne ici, aussi blanche que votre barbe, aussi longue que votre barbe, vous pouvez avoir la lignée des plus grandes familles de la Réunion, de Saint-Nile, à Parawalla, comme on dit, tout ce qu'il faut. Personne n'a la garantie de mourir avec Iman et d'aller au paradis. Alors que nous, on a l'impression que ça c'est un acquis. Que si papa était musulman, grand-père, toute génération, nous les musulmans, c'est parti. Là, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous garde nous-mêmes avant de regarder les autres. Moi je me regarde moi-même. Si vous, c'est votre problème. Mais moi je me regarde moi en premier. Ensuite je regarde le prochain, ma famille, et ensuite les gens autour. C'est comme ça qu'on doit agir. Se sauver, sauver sa famille et sauver ensuite la Oumma. Mais que chacun est fascicable. Et vous entendrez bientôt ce genre de récit, Allah Musta'an. Mais faites bien attention. Parce qu'il y a eu une époque où nos grands-parents, ils ont fait un travail énorme en arrivant à la Réunion. Construction de mosquées, de médiassas, et mise en place des qabrastan pour enterrer nos morts selon les rites islamiques. Mais là, il y a un tournant. Là. Il y a un moment donné où les gens, ils quittent le dîn, et ça c'est grave. Que les gens, ils ont abandonné le salat, ils se sont éloignés de la religion, ils ont commencé à faire certains péchés. Allah yaghfur rahim. Mais, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. N'importe quel péché, Allah il peut pardonner. Mais quelqu'un qui meurt avec shirk, là, ça c'est fini. Et comme je disais dernièrement à la tanière, si vous entendez quelqu'un, hein, il a eu un cancer, qu'Allah nous protège, quelqu'un a eu un cancer, ou quelqu'un a eu un cancer généralisé, ou quelqu'un est devenu handicapé, ou quelqu'un a eu un problème insuffisance rénale, ou telle maladie grave, et qu'il doit rester toute sa vie sur un lit d'hôpital. C'est difficile, oui on reconnaît, c'est une épreuve terrible, difficile à supporter, mais ça c'est moins grave qu'une personne qui reste riche, beau, puissant, qui a toute sa notoriété, mais qui a perdu son iman. Ça c'est catastrophe. Parce que quand il quitte ce dunya là, c'est fini pour l'éternité. L'éternité, c'est même pas un grain de sable si on jette sur ce dunya. L'éternité, c'est on ne compare pas avec ces 70, 60, ces 80 années de notre vie. Wallah, et qu'Allah nous garde sur le iman et il nous donne la mort avec iman. Et mes chers frères, si on voit ce genre de problématiques qui est en train d'arriver, on doit avoir peur pour nos enfants. On doit avoir peur que nos enfants, ils gardent iman. Allez pas loin que mon garçon, il vient Hafez Quran, Mu'allif, Mufti, Cheikh ou Hadith. Que mon fils, il grandisse dans un environnement où il y a iman, qu'il vive une vie avec iman et qu'il meure avec iman. Ça, c'est déjà plus important. Tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.